Chapitre 25. Le chemin de la lance. Sans hésiter devant la première rangée de colonnes, Rand s'enfonça dans l'étrange structure circulaire. Au point où il en était, impossible de rebrousser chemin, ni même de regarder en arrière.
Lumière, qu'est-il censé arriver ici?
Et quelle est la fonction de ces colonnes? Aussi limpide que le verre le plus pur, ces flèches d'environ un pied de diamètre, disposées au minimum à trois pas l'une de l'autre, composait une véritable forêt de lumières aveuglantes, zébrées d'ondulations stroboscopiques, de reflets éblouissants et d'arc-en-ciel improbables. L'air y était bien plus frais qu'à l'extérieur, au point que Rand regretta de n'avoir pas une veste. Mais à part ça, rien n'était bien différent. Le sol de pierre blanche était couvert de poussière, et il n'y avait pas un souffle de vent. Pourtant, quelque chose faisait bouger doucement les cheveux de Rand, et tous ses poils, y compris sous sa chemise. Devant lui, sur sa droite, il distinguait la silhouette d'un homme. Portant la tenue ocre d'un aïeul, il se tenait immobile comme une statue sous la lumière fluctuante. Ce devait être Mouradin, le frère de Kouladin. Pour qu'il reste ainsi sans broncher, quelque chose devait être déjà en train d'arriver. Bizarrement, considérant la nature de la lumière, Rand parvint à voir clairement le visage de l'aïeul. Les yeux écarquillés et fixes, les traits tendus, il affichait une moue dégoûtée. Sans savoir ce qu'il voyait, Rand devina que ça ne lui plaisait pas. Mais Mouradin avait survécu jusque-là. S'il y était parvenu, Rand pouvait y arriver aussi. Le guerrier devait être 6 ou 7 pas devant lui, au plus. Tout en se demandant pourquoi Matt et lui ne l'avaient pas repéré, le jeune homme avança. Présent dans un corps qu'il ne contrôlait pas, il se tenait derrière une paire d'yeux dont le propriétaire, accroupi au milieu d'un champ de rochers, sur le versant dénudé d'une montagne, observait sous un soleil brûlant une étrange ossature de pierre qui...
Non, c'est encore moins qu'une ossature. C'est Ruidéan, sans le brouillard, et tout au début de sa construction.
Des yeux qui observaient avec un mépris non dissimulé, il convenait de le dire. Cet aïeul se nommait Mandane, un chef plutôt jeune, à 40 ans à peine. La dissociation ne tarda pas à disparaître. Désormais, il était Mandane.
« Il faut que tu sois d'accord !»
déclara Sealdre. Mais pour l'instant, il décida de ne pas accorder d'attention à ce qu'elle disait. Les Djen avaient inventé des systèmes pour faire jaillir de l'eau et la répandre dans de grands bassins de pierre. Au cours de sa vie, Mandane avait livré des batailles pour des quantités d'eau bien inférieures au contenu d'un seul de ces bassins. Et là, des gens allaient et venaient, comme si le précieux liquide n'avait eu aucune importance. Leur activité fourmillante se concentrait dans le périmètre d'une étrange forêt de verre qui brillait au soleil non loin du plus grand arbre que Mandane n'avait jamais vu, 20 pieds de haut au minimum. Les structures de pierre semblaient conçues pour que chacune puisse abriter un clan entier lorsqu'elle serait terminée. De la folie. Cette ville, Ruidéan, serait impossible à défendre. Cela dit, personne ne se risquerait à attaquer les Djen. On préférait de loin les éviter, comme on évitait les 1000 fois maudits égarés, ces vagabonds partis à la recherche des chansons qui, selon eux, permettraient un jour le retour des temps anciens. Une colonne venait de sortir de la cité et se dirigeait vers la montagne. Quelques dizaines de Djen qui escortaient 2 palanquins portés par 8 hommes chacun et représentant assez de bois pour fabriquer toute une série de sièges de chef. D'après ce qu'on disait, il y avait encore des Aes Sedai parmi les Djen. Apparemment, c'était vrai.
« Mon époux !»
insista Sealdre.
« Tu dois consentir à tout ce qu'ils demanderont. »
Mandane regarda sa femme et résista à l'envie de passer une main dans sa longue chevelure blonde. Que n'aurait-il pas donné pour revoir la jeune fille souriante qui avait déposé à ses pieds la couronne nuptiale, lui demandant de la prendre pour épouse? Désormais, Sealdre était toujours grave, concentrée et inquiète.
« Les autres viendront-ils ? »
demanda Mandane.
« Certains. La majorité. Dans le rêve, j'ai parlé à mes sœurs, et nous avons toutes eu le même songe. Les chefs qui ne viennent pas, et ceux qui ne sont pas d'accord. Leurs clans mourront, Mandane. Dans 3 générations, ils ne seront plus que poussière, et leur forteresse, comme leur troupeau, appartiendra à d'autres clans. Quant à leur nom, ils seront tombés dans l'oubli. »
Mandane n'aimait pas que Sealdre parle aux matriarches des autres clans, même en rêve. Mais les songes des matriarches ne les trompaient jamais. Quand elles savaient, c'était toujours exact.
« Reste ici, »
dit Mandane.
« Et si je ne reviens pas, aide nos fils et nos filles à maintenir l'unité du clan. »
Sealdre caressa la joue de son mari.
« Je le ferai, ombre de ma vie. Mais n'oublie pas, Il faut que tu sois d'accord. »
Mundane avança, aussitôt suivi sur la pente par une centaine de silhouettes voilées qui se glissèrent de rocher en rocher, leurs lances et leurs arcs prêts à frapper. Leurs vêtements ocres correspondant à la couleur de la roche, ces guerriers se fondirent dans le décor, même aux yeux de Mundane. Seuls des hommes l'accompagnaient. Sur son ordre, les femmes qui portaient la lance étaient restées avec Sealdre. Si les choses tournaient mal et qu'elles tentent une folie pour le sauver, des guerriers la suivraient sans doute aveuglément. Sans se soucier de ce qu'elle voudrait ou pas, les femmes la reconduiraient jusqu'à la forteresse qu'elle avait mission de défendre. Enfin, Mundane l'espérait. Parfois, les guerrières se révélaient plus féroces que les hommes, et encore plus stupides. Quand Mundane atteignit le pied du versant, il s'avisa que la colonne venue de Ruidéan s'était arrêtée sur cette étendue de terrain plat. Après avoir fait signe à ses hommes de s'immobiliser, Mundane baissa son voile et continua son chemin. Sur sa droite et sa gauche, d'autres hommes arrivaient eux aussi de la montagne, venant de toutes les directions. Combien étaient-ils ? 50 ? Une centaine peut-être ? Certains visages qu'ils s'attendaient à voir brillaient par leur absence. Comme à l'accoutumée, Sealdre avait raison. Certains chefs ne s'étaient pas fiés aux rêves de leur matriarche. Mundane aperçut les têtes qu'il voyait pour la première fois, et il reconnut des hommes qu'il avait tenté de tuer, ou qui s'étaient acharnés à essayer de lui faire subir le même sort. Au moins, aucun n'était voilé. Tuer en présence d'un djinn était presque aussi grave qu'abattre un djinn. Avec un peu de chance, personne n'aurait oublié cela. Une seule trahison, et tous les voiles se lèveraient. Les guerriers de chaque chef descendraient de la montagne, et l'étendue de terre brûlée par le soleil serait bientôt imbibée de sang. À chaque pas, Mundane s'attendait à sentir une lance s'enfoncer entre ses côtes. Même quand on se sentait sous la menace mortelle d'une bonne centaine d'adversaires, il s'avérait difficile de ne pas regarder les Aes Sedai, tandis que les porteurs déposaient très lentement leurs splendides palanquins sur le sol. Deux femmes aux cheveux si blancs qu'ils en paraissaient transparents. Des visages sans âge, et une peau qui semblait fragile au point que le vent risquait de la déchirer. Toujours selon ce qu'on disait, le temps n'avait pas de prise sur les Aes Sedai. Quel âge pouvaient avoir ces deux-là ? Qu'avaient donc vu leurs yeux si vénérables ? Se souvenait-elle du temps où Qomran, le grand-père de Mundane, avait découvert un sanctuaire au cœur du mur du dragon et entrepris de commercer avec les Ogiers ? Pouvait-elle remonter jusqu'à l'époque où Roderick, le grand-père de Qomran, avait conduit les Aiel à la victoire contre les hommes en habits de fer qui avaient osé traverser le mur du dragon ? Les Aes Sedai tournaient à la tête vers Mundane. Un regard bleu glacier et deux yeux presque noirs, les premiers yeux sombres qu'il voyait, semblèrent transpercer son crâne et lire ses pensées comme dans un livre ouvert. Mundane comprit qu'il venait d'être choisi, même s'il n'aurait su dire pour quelle raison. Non sans effort, il s'arracha à ces regards perçants qui le connaissaient mieux qu'il ne se connaissait lui-même. Un homme grand et décharné aux cheveux blancs, les épaules voûtées par l'âge, se détacha du groupe de Jane en compagnie de deux femmes grisonnantes qui auraient très bien pu être des sœurs, si on en jugeait par leurs yeux verts profondément enfoncés dans leurs orbites et par une manière identique d'incliner la tête dès qu'elles regardaient quelque chose. Les autres Jane préféraient admirer le sol plutôt que de poser les yeux sur les Aiel. Mais ces trois-là n'avaient pas ce genre de réticence.
« Je m'appelle Dermon, »
dit l'homme d'une voix profonde et puissante, ses yeux bleus aussi sereins que ceux de Nael.
« Et voici Mordain et Naris. Nous parlons au nom de Ruidéan et des Aiel Djinn. »
Mundane sentit la nervosité des chefs qui l'entouraient. Comme lui, il détestait que les Djinn prétendent être des Aiel.
« Pourquoi nous avez-vous fait venir ici ? »
demanda-t-il. Reconnaître qu'il répondait à une convocation manqua lui arracher la langue. Sans daigner fournir d'explication, Dermon lança une question.
« Pourquoi n'apportez-vous pas d'épée ?»
Cette fois, des murmures agacés coururent dans les rangs.
« Parce que c'est interdit, »
marmonna Mundane.
« Même un djinn devrait le savoir. »
Il brandit son faisceau de lance, tapota le couteau accroché à sa ceinture, puis désigna l'arc pendu dans son dos.
« Ces armes-là suffisent à un guerrier. »
Des murmures approbateurs saluèrent cette déclaration. Parmi ses partisans, Mundane reconnut des hommes qui avaient juré de le tuer un jour. S'ils en avaient l'occasion, ils n'hésiteraient pas un instant. Mais ça ne les empêchait pas de souscrire à ses propos. Ni de se réjouir qu'ils se chargent des négociations sous le regard des Aes Sedai.
« Tu ne sais pas pourquoi, »
dit Mundane.
« Oui, tu ignores beaucoup trop de choses, »
ajouta Naris.
« Mais il faut que tu les saches. »«
Que voulez-vous ? »
demanda Mundane. «
Vous tous,
dit Dermon en balayant du regard les aïels rassemblés devant lui.
Celui qui vous dirigera doit se rendre à Ruidéan afin d'apprendre d'où nous venons et pourquoi les aïels ne portent pas d'épée. Celui qui ne pourra pas apprendre ne survivra pas.
Vos matriarches vous ont parlé,
enchaîna Mordain.
Sinon, vous ne seriez pas ici. Vous savez quel est le prix pour ceux qui refusent.
Charendin avança jusqu'au premier rang. Là, il foudroya du regard les Djen et Mordain, à qui il devait son visage balafré. En trois occasions, les deux hommes avaient bien failli se tuer.
« Celui d'entre nous qui viendra à vous dirigera les aïels ?»
demanda-t-il.
« Non. »
dit une voix semblable à un murmure, mais pourtant assez puissante pour que chacun l'entende. Cette réponse sans réplique venait de la Sedai aux yeux noirs, assise dans son palanquin sculpté, une couverture sur les genoux comme si elle avait froid dans cette fournaise.
« Celui-là viendra plus tard, »
dit-elle.
« La pierre qui n'est jamais tombée tombera pour annoncer son avènement. Il sera du sang, mais sans avoir été élevé par le sang. Et il viendra de Ruidéan à l'aube, vous unissant les uns aux autres avec des liens que vous ne pourrez pas briser. Puis il vous ramènera en arrière et vous détruira. »
Certains chefs firent mine de s'en aller, mais aucun ne s'éloigna de plus de quelques pas. Tous avaient entendu l'avertissement de leur matriarche.
« Si tu refuses, nous serons détruits, comme si nous n'avions jamais existé. Sois d'accord, ou nous nous anéantirons nous-mêmes. »«
C'est une ruse !»
s'écria Charendin. Sous le regard dur des Aes Sedai, il baissa le ton, mais ne se calma pas pour autant.
« Vous avez l'intention de prendre le contrôle de tous les aïels, mais un aïel ne s'agenouille devant aucun homme ni aucune femme !»
Il détourna la tête pour ne plus croiser le regard des Aes Sedai.
« Devant personne ! Personne !»
« Nous ne cherchons pas le pouvoir !»
annonça Narys à l'assemblée.
« Nous déclinons !»
ajouta Mordain.
« Un jour, les Djen n'existeront plus, et vous serez les derniers représentants des Aiels, ceux qui porteront le flambeau. Vous devez survivre, sinon tout cela aura été vain et à jamais perdu. »
Le ton catégorique de Mordain et sa paisible assurance réduisirent Charendin au silence. Mais Mordain, lui, avait encore une question.
Pourquoi ? Si vous vous savez condamné, pour quelle raison construisez-vous cela ?
Il désigna les ébauches de structures dans le lointain.
Parce que c'est notre destinée,
répondit Dermon, lui aussi très calme.
Depuis de longues années, nous cherchions cet endroit. Aujourd'hui, nous le préparons, même si ce n'est pas pour l'usage que nous imaginions. Nous faisons ce qui nous est imposé et nous gardons la foi.
Mordain dévisagea le vieil homme et ne vit aucune trace de peur sur ses traits.
« Vous êtes des aïels, »
dit-il. Certains autres chefs en crièrent d'indignation, mais il haussa le ton.
« J'irai chez les aïels, Djen. »«
Mais tu n'entreras pas armé à Ruidéan, »
lâcha Dermon. Mordain rit de tant de témérité. Demander à un aïel de se défaire de ses armes. Se débarrassant pourtant de ses lances, de son couteau et de son arc, il avança vers Dermon.
Conduis-moi jusqu'à Ruidéan, Aiel. Je serai à la hauteur de ton courage.
Rand cligna des yeux dans la lumière scintillante. Un long moment durant, il avait été pour de bon Mordain. Dans un coin de sa tête, il sentait encore le mépris pour les Djen se transformer en admiration. Alors, ces Djen étaient-ils des Aiel ou non ? L'apparence collait en tout cas. Grand, les yeux clairs, la peau tannée par le soleil. Les vêtements ocres correspondaient aussi, n'était l'absence de voile. Mais aucun d'entre eux ne portait d'armes, sinon un banal couteau qui aurait pu servir à des travaux domestiques. Un aïel désarmé ? N'était-ce pas tout simplement inconcevable ? Rand s'avisa qu'il avait avancé de bien plus d'un pas au sein des colonnes, au point d'avoir presque rejoint Mouradin, qui le regardait d'un air pensif. La poussière grinça sous les bottes de Rand lorsqu'il reprit son chemin. Nommé Roderick, il approchait de ses 20 ans. Alors que le soleil brûlait ardemment dans le ciel, il gardait son voile levé, les yeux sans cesse aux aguets. Ses lances étaient prêtes à l'action, une dans sa main droite et les trois autres dans la gauche, qui tenait aussi sa rondache. Il était prêt. Jeordam était au pied de la colline, au sud, dans l'étendue d'herbe jaunie, là où presque tous les arbustes étaient chétifs et ratatinés. S'il avait les cheveux blancs comme la neige, cette étrange chose froide dont parlaient les anciens, le vieil homme conservait un œil d'aigle et regardait les puisatiers remplir des outres d'eau ne devait sûrement pas mobiliser toute son attention. Des montagnes s'élevaient au nord et à l'est. La chaîne septentrionale, pourtant imposante avec ses pics déchiquetés couronnés de blanc, paraissait minuscule comparée à sa sœur orientale. Ces pics-là semblaient avoir l'intention de toucher le cœur même du ciel, et rien ne prouvait qu'il n'y parvenait pas. Cette blancheur qui couronnait les sommets du nord, justement, était-ce de la neige? Roderick ne le découvrirait jamais. Face à un tel défi, Legend déciderait sûrement de se diriger vers l'est. Depuis de longs mois, ils avançaient vers le nord, le long de cette muraille rocheuse. Tirant péniblement leur chariot, ils tentaient de ne pas penser aux aïels qui les suivaient. Au moins, quand ils traversaient une rivière, ça leur permettait de se procurer un peu d'eau. Très peu, en réalité. Voilà des années que Roderick n'avait plus vu un cours d'eau qu'il ne puisse pas traverser à pied, quand il ne s'agissait pas de torrents de boue venus des montagnes. La pluie reviendra-t-elle un jour? Il l'espérait, car grâce à elle, le monde devenait vert. Il se souvenait de l'avoir vu ainsi, jadis. Roderick entendit les chevaux avant même de les voir. Tournant la tête, il découvrit trois cavaliers qui avançaient entre les collines, tous portant une chemise de cuir sur laquelle étaient cousus des disques de métal. Deux d'entre eux brandissaient une lance. Le troisième, Garam, à peine plus âgé que Roderick, était le fils du chef de la ville qui se dressait dans le dos des trois hommes, hors de vue à cause des collines. Aveugles comme tous les citadins, ces imbéciles ne virent pas les aïels qui bougèrent à peine après leur passage, puis se fondirent de nouveau dans le paysage. Roderick abaissa son voile. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de tuerie, sauf si les cavaliers attaquaient les premiers. En un sens, il ne le regrettait pas vraiment, même s'il avait du mal à se fier à des gens qui vivaient dans des maisons massées les unes contre les autres. Il y avait eu tant et tant de batailles contre ces fichus habitants des villes. Selon les récits, il en était ainsi depuis toujours. Garam tira sur les rênes de sa monture, puis il leva le bras droit en guise de salut. Comme ses deux compagnons, ce garçon aux yeux sombres n'avait rien d'impressionnant. Cela dit, tous les trois semblaient à la fois aguerris et compétents.
« Bonjour, Roderick. Avez-vous fini de remplir vos outres ?»«
Je te vois, Garam, » répondit Roderick, respectueux du protocole.
S'il ne broncha pas, voir des hommes à cheval, et armés d'une épée pour ne rien arranger, le mit très mal à l'aise. Les aïels utilisaient des bêtes de bât, mais s'asseoir sur un équidé semblait si peu naturel. Les jambes d'un homme digne de ce nom devaient lui suffire.
« Nous avons presque terminé. Ton père nous refuse-t-il la permission de puiser de l'eau sur ses terres ?»
Aucune autre ville n'avait été aussi généreuse. Quand il y avait des hommes dans les environs, il fallait se battre pour l'eau comme pour tout le reste. Et lorsqu'il y avait de l'eau, les hommes n'étaient jamais bien loin. Face à ces trois-là, Roderick n'aurait guère de chance de s'en sortir. Il se campa solidement sur ses pieds, prêt à se battre et à mourir.
« Pas du tout !»
répondit Garam, sans même remarquer le changement d'attitude de son interlocuteur.
« Nous avons une source abondante en ville, et après votre départ, a dit mon père, nous disposerons des puits que vous avez creusés, jusqu'à ce que nous partions nous-mêmes. Mais ton grand-père semblait vouloir apprendre si les autres s'étaient mis en mouvement. Apparemment, c'est le cas. »
Garam appuya un coude sur le pommeau de sa selle.
« Dis-moi, Roderick, ils appartiennent vraiment au même peuple que vous ?»«
Ce sont des Aiel, Jen. Nous, des Aiel, tout simplement. Nous sommes semblables et pourtant différents. Je ne peux pas t'expliquer mieux les choses, Garam. »
La stricte vérité, puisqu'il ne les comprenait pas lui-même.
« Dans quelle direction sont-ils allés ?»
demanda Jordam. Roderick s'inclina devant son grand-père. Entendant un bruit de pas, des bottes souples, il avait identifié un aïel avant même de le voir. Bien sûr, les citadins n'avaient rien entendu. Et ils en sursautèrent de surprise, tirant sur les rênes de leur monture. Levant une main, Garam les empêcha de baisser leur lance vers le nouveau venu. Roderick et son grand-père attendirent patiemment.
« Vers l'est !»
dit Garam quand il eut repris ses rênes à deux mains.
« Il traverse la colonne vertébrale du monde. »
Du menton, il désigna les pics qui semblaient vouloir éventrer le ciel. Roderick fit la grimace.
« Qu'y a-t-il de l'autre côté ?»
demanda Jordam, impassible.
« Le bout du monde, pour ce que j'en sais, »
répondit Garam.
« Je ne suis même pas sûr qu'on puisse traverser. Les Jains sont accompagnés par des Aes Sedai, des dizaines, dit-on. Voyager si près d'Aes Sedai ne vous a-t-il pas mis mal à l'aise ? D'après ce qu'on dit, le monde était différent jadis, avant la dislocation. »
Même s'il ne le montra pas, la simple mention des Aes Sedai inquiétait Roderick. En guise de dizaines, il n'y en avait eu que quatre. Mais ça suffisait pour lui rappeler les récits affirmant que les Aiel avaient trahi les Aes Sedai d'une manière dont nul ne se souvenait. mais les Aes Sedai n'avaient sûrement pas oublié. Depuis leur arrivée, un an plus tôt, elles étaient rarement sorties des chariots. Mais chaque fois, elles avaient regardé les Aiel d'un air mélancolique. En fait, Roderick n'était pas du tout le seul à avoir tenté de les éviter.
« Nous escortons les Djen, »
précisa Jordam.
« Ce sont eux qui voyagent avec des Aes Sedai. »
Garam hocha la tête comme s'il saisissait la nuance. Puis il se pencha de nouveau sur sa selle et baissa le ton.
« Mon père a une Aes Sedai pour conseillère, même s'il essaie de le cacher aux citadins. Elle affirme que nous devons quitter ces collines et nous déplacer vers l'est. Selon elle, les rivières asséchées couleront de nouveau et nous construirons une grande ville à côté de l'une d'entre elles. Elle raconte bien des choses. J'ai entendu dire que les Aes Sedai prévoient de bâtir une cité et qu'elles ont trouvé des ogiers pour le faire à leur place.
« Les ogiers !»
Garam secoua la tête pour en chasser les légendes et revenir à la réalité.
« Tu crois que les Aes Sedai ont l'intention de diriger de nouveau le monde ? Dans ce cas, nous devrions les tuer avant qu'elles nous anéantissent encore. »
« Faites ce que vous jugez devoir faire, »
dit Jordam, sans trahir ce qu'il pensait lui-même.
« Je dois préparer mon peuple à traverser ces montagnes. »
Garam se redressa sur sa selle, visiblement déçu. Sans doute parce qu'il espérait que les Aiel l'aideraient à tuer les Aes Sedai, supposa Roderick.
« La colonne vertébrale du monde, »
dit soudain le citadin.
« Elle a un autre nom. Certains l'appellent le mur du dragon. »«
Un nom adapté, »
convint Jordam. Roderick contempla les pics lointains. Un nom adapté, certes, et surtout pour les Aiel. Car leur nom secret, que nul ne connaissait, c'était le peuple du dragon. On ne le prononçait jamais à haute voix, sauf lorsqu'un guerrier recevait ses lances. Qui avait-il au-delà du mur du dragon? Des ennemis à combattre, sans nul doute, car il y en avait toujours. Dans le monde, il existait seulement les Aiel, les Djen et les ennemis. Oui. Rien de plus que ça. Rand prit une grande inspiration qui le brûla comme s'il n'avait pas respiré depuis des heures. Autour de lui, les colonnes de verre brillaient, plus éblouissantes que jamais. Trois mots résonnaient encore dans son esprit. Aiel, Djen, ennemi. La scène qu'il venait de vivre ne s'était pas déroulée dans le désert. Il avait vécu un moment à une époque antérieure à l'arrivée des Aiel dans leur tierce terre. À présent, il était encore plus près de Mouradin, qui regardait nerveusement autour de lui, semblant lutter contre l'envie de faire un nouveau pas en avant. Rand continua son chemin. Accroupi sur le versant de la colline couvert d'un tapis blanc, Jordam, traitant le froid par le mépris, regardait les cinq personnes qui avançaient dans sa direction. Trois hommes en cape de voyage et deux femmes vêtues d'une large robe qui avait bien du mal dans la neige. Selon les anciens, l'hiver aurait dû être fini depuis longtemps, mais les saisons n'étaient plus ce qu'elles étaient, affirmait-il en se tordant les mains. Il prétendait aussi que la terre tremblait jadis et que les montagnes, comme l'eau d'un étang lorsqu'on jette une pierre dedans, ne cessaient de s'élever et de sombrer. Âgé de 18 ans, né au milieu des tentes, il n'avait jamais connu d'autre vie que celle-là. La neige, les tentes et le devoir de protéger. Abaissant son voile, il se redressa lentement et s'appuya à la longue hampe de sa lance pour ne pas effrayer les gens du chariot, comme on les surnommait parfois, mais ils s'immobilisèrent brusquement, les yeux rivés sur la lance, l'arc et le carquois de Jordam. Aucun de ces inconnus ne semblait plus vieux que lui.
« Vous avez besoin de nous, Djen ? »
lança-t-il.
« Tu nous appelles ainsi pour te moquer de nous ?»
répondit un grand type au nez pointu.
« Pourtant c'est exact. Nous sommes les seuls véritables Aiel, car vous avez renié le paradigme. »«
C'est faux !»
riposta Jordam.
« Je n'ai jamais tenu une épée !»
Il respira à fond afin de se calmer. On ne l'avait pas affecté à ce poste pour qu'il s'énerve contre des Djen.
« Si vous êtes perdu, vos chariots sont par là !»
dit-il en désignant le sud avec la pointe de sa lance. Posant une main sur le bras de nez pointu, une des femmes murmura quelques mots. Les trois autres voyageurs acquiescèrent, et nez pointu finit par les imiter à contre-cœur. Avec les mèches blondes qui s'échappaient du châle noir noué autour de sa tête, la femme était plutôt jolie.
« Nous ne sommes pas perdus !»
dit-elle en regardant Jordam comme si elle s'avisait de sa présence. Mal à l'aise, elle tira sur les plis de son châle. Jordam hocha la tête. Il n'avait pas cru un instant que ces Djen étaient perdus. Même lorsqu'ils avaient besoin d'aide, ces gens faisaient en général tout pour éviter ceux qui vivaient sous les tentes. Et ceux qui faisaient exception à cette règle étaient motivés par le désespoir de n'avoir pas trouvé d'assistance ailleurs.
« Suivez-moi !»
Les tentes du père de Jordam se dressaient à un peu moins d'un quart de lieue de là. De la neige les couvrait encore en partie, les rendant très difficiles à repérer. Au milieu, les semblables de Jeordam vaquaient leurs occupations. Sans cesser de cuisiner, de réparer des armes ou d'échanger des salves de boules de neige avec un enfant, tous observaient avec méfiance les cinq inconnus. Jeordam était très fier de son clan. 200 personnes, soit bien davantage que dans les 9 autres camps éparpillés au nord de la position des chariots. En revanche, les Djen ne semblaient pas impressionnés. Comme toujours, l'idée qu'ils soient tellement plus nombreux que les Aiel fit bouillir le sang du jeune guerrier. Très grand, déjà grisonnant et sinistre comme à l'accoutumée, Lewin sortit de sa tente. D'après ce qu'on disait, il ne souriait jamais, et Jeordam n'avait aucune raison de mettre en doute cette affirmation. En allait-il autrement avant que sa femme, la mère du jeune Aiel, ait été emportée par une mauvaise fièvre? Jeordam aurait aimé le croire, mais il n'y parvenait pas. Maureen, la femme blonde, raconta une histoire qui n'étonna pas Jeordam. Les Djen avaient commercé avec un village, un endroit protégé par un mur de rondins, et la nuit suivante, leurs clients étaient venus reprendre ce qu'ils avaient remis en paiement, et plus encore, les dépouillant littéralement. Les Djen croyaient toujours pouvoir se fier aux gens qui habitaient dans des maisons. Ils pensaient aussi que le paradigme les protégeait en toutes circonstances. Là, il y avait eu des morts. Plusieurs pères, une mère et des premiers frères. Et des prisonniers. Des premières sœurs, une sœur-mère et une fille. Cette dernière précision surprit Jeordam, car la fille en question, âgée de 5 ans et enlevée pour être élevée par une autre femme, était celle de Maureen. Dévisageant la voyageuse, Jeordam ajouta mentalement quelques années à l'âge qu'il lui aurait donné.
« Nous les ramènerons, »
promit Lewin. Il saisit les lances qu'on lui tendait et les planta dans le sol.
« Si vous le souhaitez, vous pouvez rester avec nous, à condition d'être prêt à vous défendre, le cas échéant, et à nous protéger s'il le faut. Mais si vous faites ce choix, les chariots ne vous accepteront plus jamais. »
Entendant cela, Nez Pointu se détourna et détala comme un lapin. Lewin ne parut pas ébranlé. Le plus souvent, quand on en arrivait à ce point, il restait rarement un seul djen.
Ceux qui veulent nous accompagner jusqu'à ce village doivent avoir une lance. Et n'oubliez pas, si vous prenez une arme pour l'utiliser contre des hommes, vous devrez demeurer avec nous. Pour les djen, vous serez mort, tout simplement.
Un des deux hommes hésita, mais il finit par saisir une lance, comme son compagnon. Et comme Maureen. Jeordam en resta bouche bée, et Lewin lui-même ne cacha pas sa surprise.
« Tu peux rester sans prendre une lance, »
dit-il.
« Et ça ne nous empêchera pas d'aller chercher les tiens. En revanche, saisir une arme implique que tu as la volonté de te battre, pas seulement de te défendre. Tu peux lâcher cette lance, il n'y a pas de honte à ça. »«
Ils ont capturé ma fille, »
dit simplement Maureen. À l'immense surprise de Jeordam, Lewin acquiesça sans hésitation.
« Il y a une première fois pour tout, »
dit-il.
« Pour vraiment tout. Alors, qu'il en soit ainsi. »
Traversant le camp, il tapa sur l'épaule de plusieurs hommes, une façon de sélectionner ceux qui allaient découvrir ce village défendu par un mur d'enceinte. Jeordam fut le premier élu. Depuis qu'il avait l'âge de porter une lance, son père le sélectionnait toujours avant quiconque d'autre, et il n'aurait pas supporté qu'il en aille autrement. Maureen ne s'en sortit pas très bien avec la lance, dont la hampe se prenait dans le bas trop long et trop ample de sa robe.
« Tu n'es pas obligé de venir, »
l'informa Jeordam.
« Aucune femme ne l'a fait avant toi. Nous te ramènerons ta fille. J'entends aller chercher Kirin moi-même, et tu ne m'en empêcheras pas. »
Une femme de tête, vraiment.
« Dans ce cas, tu dois t'habiller comme moi. Une robe n'est pas adaptée pour une mission nocturne. »
Jeordam s'empara de la lance trop vite pour que la jeune femme puisse réagir.
« Apprendre à manier cette arme n'est pas facile. »
Les deux compagnons de Maureen en étaient la preuve vivante. Alors qu'un guerrier tentait de les former, ils comprenaient tout de travers et réussissaient surtout à s'en mêler les pinceaux. S'emparant d'une hachette, Jeordam raccourcit de 3 bons pieds la hampe de la lance destinée à Maureen. Ainsi, il ne restait plus que 3 pieds de bois et près d'1 pied d'acier.
« Frappe comme avec un couteau. Rien de plus. La hampe sert d'habitude à parer ou dévier des attaques. Mais je trouverai pour te protéger quelque chose que tu pourras tenir de l'autre main. »
Maureen regarda le jeune homme d'une étrange façon.
« Quel âge as-tu ? »
demanda-t-elle d'un ton encore plus bizarre. Après avoir obtenu la réponse, elle hocha pensivement la tête.
« Un de ces hommes est ton mari ?»
demanda Jeordam en désignant les 2 lourdeaux qui continuaient à se casser la figure en marchant sur leur propre lance.
« Mon époux a déjà fait son deuil de Kirin. Il se soucie plus des arbres que de sa propre fille.
Les arbres ?
Les arbres de vie. »
Devant la perplexité de son interlocuteur, Maureen secoua la tête.
« 3 petits arbres plantés dans des tonneaux. Ils les couvrent comme la prunelle de leurs yeux.
Quand ils auront trouvé un endroit sûr, ils envisagent de les y enraciner. Alors l'ancien temps renaîtra. Tu as remarqué ? Je dis « ils » pour parler des djennes. Il semblerait que je n'en sois plus une.
Elle leva la lance raccourcie.
« Voilà à qui je suis promise désormais. »
Dévisageant Jeordam, Maureen demanda.
« Si quelqu'un enlevait ton enfant, parlerais-tu du paradigme de la feuille et de la souffrance qu'on nous envoie pour nous mettre à l'épreuve ?»
Jeordam fit non de la tête.
« C'est bien ce que je me disais. Tu seras un très bon père. En attendant, apprends-moi à utiliser cette arme. »
Une femme très étrange, mais vraiment jolie. Lui reprenant la lance, Jeordam se livra à une démonstration accompagnée de commentaires. Avec sa hampe plus courte, la lance se révéla plus maniable, améliorant nettement la vitesse d'exécution du guerrier. Maureen le regardait avec un bien curieux sourire, mais il était trop concentré pour s'en apercevoir.
« Je t'ai vu dans le rêve, »
souffla-t-elle. Jeordam ne l'entendit pas vraiment. Avec une lance de ce genre, il serait plus rapide qu'un escrimeur. Si tous les Aiel s'équipaient ainsi, les hommes d'épée n'auraient plus aucune chance contre eux. Nul ne pourrait plus s'opposer à eux. Ils seraient invincibles. Des éclairs jaillissaient entre les colonnes de verre, aveuglant presque Rande. Mouradin n'était plus qu'à un pas ou deux devant lui. Un rictus dévoilant ses dents, il regardait fixement les colonnes qui les entraînaient tous les deux en arrière, dans le passé des Aiel. Un très lointain passé. Rande sentit ses jambes bouger de leur propre volonté. En avant et en arrière dans le temps. Lewin rectifia la position du voile anti-poussière sur son visage et baissa de nouveau les yeux vers le petit camp où les braises d'un feu rougeoyaient encore sous un chaudron en fer. Dans le vent, Lewin capta une odeur de nourriture commençant à brûler. À la lumière de la lune, on distinguait très bien les silhouettes endormies sous leur couverture autour du feu. Il n'y avait pas de chevaux en vue. Lewin regretta de ne pas avoir emporté d'eau. Mais sauf au moment des repas, seuls les enfants avaient le droit de boire. Dans un lointain passé dont ils se souvenaient à peine, l'eau n'était pas si rare, le vent ne soufflait pas sans cesse et les journées n'étaient pas si chaudes et si sèches. À présent, même les nuits n'offraient plus de répit, car la fournaise y était remplacée par une fraîcheur qui vous glaçait la moelle des os. Frissonnant, Lewin resserra autour de son torse les pans de la cape en peau de chèvre sauvage qu'il utilisait comme couverture. Emmitouflés comme lui, les compagnons de Lewin étaient en train de le rejoindre, avec le vacarme qu'il faisait, délogeant des pierres et marmonnant des imprécations, qu'il ne réveille pas les dormeurs serait un miracle. Mais comment les en blâmer, surtout quand on n'était pas plus familier de cet exercice qu'eux. Les voiles dissimulaient les visages de ces hommes, mais Lewin les connaissait assez pour les identifier. Il y avait Luca le farceur, avec ses épaules une bonne demi-fois plus larges que celles des autres. Geharan, mince comme une cigogne, et le meilleur coureur de tous parmi les chariots. Charline et Alija étaient là aussi, de véritables frères jumeaux. N'était le tic de Charline, inclinait la tête chaque fois qu'il s'inquiétait. Ce soir, il crevait d'angoisse, car Colleen, la sœur des deux jumeaux, était prisonnière dans le camp. Comme Meigran, la sœur de Lewin. Lorsqu'on avait retrouvé les sacoches des deux jeunes filles, la bandoulière cassée suite à des violences, tout le monde, à part les cinq jeunes guerriers, s'était résigné à pleurer puis à oublier, comme en tant d'occasion par le passé. Même le grand-père maternel de Lewin avait baissé les bras. Et s'il avait su ce que les cinq jeunes gens mijotaient, Adan leur aurait interdit de mettre leur plan à exécution. Désormais, il ne savait plus que radoter au sujet de la foi qu'il fallait continuer à avoir envers des Aes Sedai dont Lewin n'avait jamais vu ne serait-ce que l'ombre. Ça et l'obsession de garder en vie les Aiel. En tant que peuple, sans se soucier des individus. Pas même de Meigran.
« Ils sont quatre !»
souffla Lewin.
« Les filles sont de notre côté du feu.
Je vais aller les réveiller, discrètement.
Puis nous filerons pendant que leurs ravisseurs dorment. »
Les quatre amis du jeune homme se consultèrent du regard et acquiescèrent. Idéalement, Lewin en convenait, ils auraient dû avoir un plan bien avant d'en être à ce point. Mais le désir de sauver les filles et la nécessité de s'éloigner des chariots sans être vus avaient mobilisé toute leur énergie mentale. Au début, Lewin n'aurait pas juré qu'il serait capable de pister ses hommes et de les rattraper avant qu'ils soient de retour dans leur village, un amas de huttes de fortune d'où les Aiel avaient été chassés sous une volée de pierres et de coups de bâton. Si les ravisseurs avaient réussi à rentrer chez eux, il n'y aurait plus rien eu à faire.
« Et s'ils se réveillent ?»
demanda Geharan.
« Je n'abandonnerai pas Colleen !»
déclara Charline, comme toujours beaucoup moins calme que son frère.
« Geharan, nous allons les ramener !»«
Oui, c'est sûr !»
approuva Lewin. Luca flanqua une bourrade dans les côtes de Geharan, qui acquiesça sans conviction. Descendre la pente dans l'obscurité ne fut pas un jeu d'enfant. Alors que des brindilles desséchées se brisaient sous leurs chaussures, des pierres et des cailloux formaient des avalanches miniatures devant eux. Plus ils tentaient d'être discrets, et plus Lewin aurait juré qu'ils produisaient un épouvantable boucan. Luca tomba dans un buisson d'épineux qui craqua sinistrement. Par bonheur, il parvint à se tirer de ce mauvais pas sans pousser un seul cri. Charline glissa et dévala sur les fesses une bonne partie de la pente. Miraculeusement, rien ne bougea autour du feu de camp. À courte distance du camp, Lewin s'immobilisa, échangea des regards inquiets avec ses compagnons, puis continua sur la pointe des pieds. Quand il fut sur le site, il eut l'impression que sa respiration faisait encore plus de bruit que les ronflements montant d'une des quatre plus grandes silhouettes de dormeurs. Soudain, le silence se fit et une des couvertures se souleva. Mais rien ne se passa, les ronflements reprirent, et Lewin s'autorisa à aspirer de nouveau de l'air. Très prudemment, il s'agenouilla près d'une des plus petites silhouettes et écarta une couverture de laine quasiment raide de crasse. Meigran leva vers lui son visage tuméfié. Sa robe, constata-t-il, était en lambeaux. Pour l'empêcher de crier, il lui plaqua une main sur la bouche, mais elle ne réagit pas, continuant à rivé sur lui son regard vide.
« Je vais t'égorger comme un cochon, mon gars !»
lança une voix rauque. Une des silhouettes se redressa, un type à la barbe en bataille, puant comme un bouc. La lame d'un couteau brillant dans le prolongement de sa main, il flanqua des coups de pied aux deux dormeurs qui l'entouraient.
« Comme un cochon, oui. Tu sais couiner, minable. Où es-tu seulement capable de fuir, comme tous ceux de ton engeance ?»« Enfuis-toi !»
cria Lewin à sa sœur. Elle resta amorphe, comme si tout ça ne l'intéressait pas. La saisissant par les épaules, il tenta de l'inciter à filer rejoindre les autres.
« Cours !»
Meigran sortit de sous ses couvertures comme une somnambule. Colleen était elle aussi réveillée. Lewin l'entendait gémir, mais elle semblait vouloir s'envelopper dans sa couverture et se cacher du monde. Les yeux dans le vide, Meigran resta plantée où elle était.
« Même pas capable de détaler, ces miteux !»
Triomphant, l'homme au couteau était en train de faire le tour du feu. Tous réveillés, les trois autres regardaient la scène, l'air goguenard. Le barbu avançait à pas lents, comme pour mieux savourer ce qui allait suivre. Lewin se demanda que faire. Puisqu'il n'avait aucune intention d'abandonner sa sœur, il allait devoir crever ici. Avec un peu de chance, Meigran en profiterait pour s'enfuir.
« Meigran, va-t'en ! Je t'en supplie, file d'ici !»
La jeune fille ne broncha pas, comme si elle n'avait même pas entendu son frère. Que lui avaient donc fait ses porcs ?
« Non !»
cria Charline. Bondissant sur le barbu, il le ceintura un peu à la manière d'un ours qui attaque et le jeta sur le sol. Les trois autres types se mirent debout d'un bond. Levant son épée, un chauve au crâne luisant sous la lumière blafarde de la lune fit mine de frapper Charline. Lewin ne sut jamais exactement comment les choses s'étaient enchaînées. Se retrouvant avec la poignée du chaudron dans la main, il prit son élan et propulsa l'ustensile de cuisine dans la tête du chauve, qui s'écroula comme si tous ses os étaient devenus de la guimauve. Déséquilibré, Lewin se contorsionna pour ne pas tomber dans le feu, atterrit juste à côté et lâcha son précieux chaudron. Un type aux cheveux tressés leva à son tour son épée avec l'intention de le clouer au sol. Rampant en arrière comme une araignée, les yeux braqués sur la pointe de l'arme du tueur, Lewin chercha désespérément quelque chose qui lui permettrait de se défendre. Par miracle, ses mains se refermèrent sur ce qui devait être un bâton. Sans perdre une seconde, il le tendit vers son adversaire, le touchant entre les deux yeux. L'homme lâcha son épée et bascula en avant, du sang jaillissant de sa bouche. Lewin n'avait pas trouvé un bâton, mais une lance. Il lâcha la hampe dès qu'il comprit qu'il venait de tuer un homme. Mais c'était fait. S'écartant pour que le mort ne lui tombe pas dessus, il sentit qu'il tremblait de tous ses membres. Un cadavre. Il avait tué quelqu'un. Soudain, le vent lui parut glacial. Après quelques instants, il se demanda pourquoi un des compagnons du défunt ne l'avait pas égorgé comme un cochon. Regardant autour de lui, il fut surpris de découvrir tous ses amis autour du feu. Geharan, Luca et Alijah, haletants, écarquillaient les yeux d'horreur au-dessus de leurs voiles. Colleen continuait à sangloter sous sa couverture, et Meigran jouait toujours les statues de marbre. Agenouillé près d'elle, Charline se recroquevillait sur lui-même comme un enfant. Quant aux quatre ravisseurs, le regard de Lewin passa sur chacun des cadavres.
« Nous les avons tués !»
balbutia Luca.
« Que la lumière ait pitié de nous !»
Lewin approcha de Charline et lui tapota l'épaule.
« Tu es blessé ?»
Charline bascula sur le côté. Ses mains rouges de sang serraient le manche du couteau planté dans son ventre.
« Léwin, ça fait mal !»
gémit le blessé. Il eut un dernier spasme, puis toute lumière déserta son regard.
« Qu'allons-nous faire ?»
demanda Guéran.
« Charline est mort, et nous ? Pas la lumière, qu'avons-nous fait ? Et maintenant, qu'est-ce qui nous attend ?»«
Pour commencer, nous allons ramener les filles parmi les chariots !»
répondit Léwin, incapable de détourner les yeux du regard vide de Charline.
« Voilà ce qui nous attend !»
Les jeunes gens collectèrent tout ce qui avait de la valeur, pour l'essentiel, le chaudron et les couteaux. Les objets métalliques ne se trouvaient pas aisément.
« Ce n'est pas du vol !»
tenta de justifier Alidja.
« Ces types ont dû dépouiller des gens comme nous pour avoir tout ça !»
Quand son ami fit mine de s'emparer d'une épée, Léwin l'en empêcha.
« Non, Alidja, c'est une arme conçue pour tuer des êtres humains. Elle n'a pas d'autre usage. »
Le jeune homme ne protesta pas. Son regard balayant la zone, il se mit simplement en quête d'éventuelles lances. Alors que Luca récupérait des couvertures qui serviraient à transporter le cadavre de Charline, Léwin détourna la tête pour ne pas voir les restes des villageois.
« Alidja, une lance peut servir à chasser et donc à nourrir des gens, pas une épée. Voilà pourquoi le paradigme nous interdit d'en porter une. »
Alidja ne dit rien, mais Léwin crut le voir ricaner sous son voile. Mais lorsque le petit groupe s'éloigna, les épées restèrent sur le sol, près des flammes agonisantes et des ravisseurs défunts. Le retour, en pleine nuit et en portant la civière improvisée de Charline, se révéla long et pénible, d'autant plus que les bourrasques soulevaient par moments de vrais nuages de poussière. Ignorant où elle était et avec qui elle marchait, Meigran trébucha plusieurs fois. Comme si la terreur la tenait toujours entre ses griffes, Colin sursautait dès que quelqu'un la touchait, y compris son frère. Léwin n'avait pas imaginé un retour si piteux. Normalement, les filles auraient dû être heureuses de recouvrer la liberté et les garçons d'avoir réussi leur mission. Mais il y avait le cadavre de Charline et le souvenir accablant de 4 meurtres. Les feux de cuisson furent bientôt en vue. Puis ce fut autour des chariots, les harnais déjà disposés afin que les haleurs puissent y atteler dès l'aube. Après le coucher du soleil, personne ne s'éloignait du cercle de chariots. Léwin fut donc très surpris de voir 3 silhouettes venir à leur rencontre. Reconnaissant Adan à ses cheveux blancs, il identifia également Nérine, la mère de Colin, et Saraline, la sienne et celle de Meigran. Sous un saisi d'un sombre pressentiment, Léwin abaissa son voile. Les 2 femmes enlacèrent leurs filles, les réconfortant avec de doux murmures. Colin sembla soulagée de se retrouver entre des bras aimants. Meigran, en revanche, ne montra aucun signe qu'elle reconnaissait Saraline, qui manqua éclater en sanglots en découvrant le visage tuméfié de son enfant. Ses rides creusées par l'inquiétude, Adan regarda sévèrement les 4 jeunes hommes.
« Au nom de la lumière, que s'est-il passé ? Quand nous nous sommes aperçus que vous aviez également disparu ?»
Adan se tut, car son regard venait de se poser sur la civière.
« Qu'est-il arrivé ? »
Une question dont il redoutait la réponse, si on se fiait à son ton. Léwin voulut répondre, mais Meigran le devança.
« Ils les ont tués, »
dit-elle, le regard perdu dans le vide et la voix semblable à celle d'une enfant.
Les méchants hommes nous ont fait du mal, mais Léwin est arrivé et il les a abattus. Tu ne dois pas dire des choses pareilles, mon enfant. Tu... »
Elle se tourna vers Léwin, hésitante.
« C'est la vérité. Nous étions obligés, »
répondit Alidja.
« Ils ont tenté de nous tuer, et ils ont eu Charline. »
Adan recula d'instinct.
« Vous avez tué, des hommes. Auriez-vous oublié le pacte ? Nous ne faisons de mal à personne. » Personne ! Rien ne justifie jamais de prendre la vie d'un autre humain. Vous m'entendez ? Grand-père, ils ont enlevé Meigran et Colin. Et ils les ont violentés. Ils... Rien ne justifie un meurtre !
Rugit Adan, furieux.
Nous devons accepter ce qui nous arrive. La souffrance est une épreuve pour notre foi. Nous subissons et nous résistons. Sans commettre de meurtre. Vous ne vous êtes pas écarté du paradigme. Vous lui avez tourné le dos. Vous n'êtes plus Dashain. Vous êtes corrompu. Je ne vous laisserai pas souiller les aïels. Partez d'ici, étranger. Tueur ! Vous n'êtes pas les bienvenus parmi les chariots des aïels.
Adan se détourna et s'éloigna comme si les 4 jeunes hommes n'existaient plus pour lui. Entraînant leurs filles, Saraline et Nérine lui emboîtèrent le pas.
Mère ! Mère !
Appela Léwin. Il tressaillit quand Saraline se retourna vers lui, le foudroyant du regard.
« Mère, s'il te plaît, qui es-tu pour m'appeler ainsi ?
Cache ton visage lorsque tu es en face de moi, étranger. Naguère, j'avais un fils qui te ressemblait. Je refuse de voir ses traits sur le faciès d'un tueur.
Sur ces mots, Sarah Lynn tourna le dos à son fils.
« Je suis toujours un Nagel !»
cria Lewin. Mais sa mère et sa sœur ne se retournèrent pas.
« Oui, je suis un Nagel !»
rugit-il, alors qu'il lui semblait entendre Luca pleurer. Le vent redoublant de violence, il releva son voile. Les éclairs semblaient à présent transpercer les yeux de Rand. La douleur de Lewin lui serrant toujours le cœur, il avait l'esprit en ébullition. Lewin n'avait pas d'armes, et de toute façon, il n'aurait pas su comment s'en servir. Tuer le terrifiait. Tout ça n'avait aucun sens. Il avait presque atteint Mouradine désormais, mais Layel n'avait pas conscience de sa présence. Le front ruisselant de sueur, son rictus devenu une grimace, il tremblait comme s'il bouillait d'envie de s'enfuir. Rand fit un pas en avant dans l'espace et recula dans le temps.